médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, le nouveau roman d'un grand écrivain très attendu. Un duo musical créole qui sublime le métissage avec des textes engagés et un premier récit avec une auteure belge qui explore à sa manière la liberté et les difficultés sociales en milieu scolaire. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Nous allons vous faire découvrir un groupe créole qui utilise la musique pour porter des messages et mettre en valeur la poésie. Bonbon Vaudou sort un nouvel album nommé Cimetière Créole. Avec de prestigieuses collaborations, il jouera un titre acoustique dans notre studio. Nous irons à cette occasion à La Réunion dans un cimetière pas comme les autres, avec un reportage sur la tombe de Sitaran, un criminel mystique qui divise les Réunionnais. Une autre découverte avec la jeune belge Lou Canche qui fait parler d'elle en Belgique en ce moment. Son premier roman, publié chez Grasset, raconte un amour interdit en milieu scolaire et elle ose un regard singulier sur la liberté. Et puis nous recevons le grand Philippe Dian pour son nouveau roman, une histoire saisissante dans la veine de l'auteur qui dresse le portrait de deux personnages atypiques dans un style toujours corrosif. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine, ils interviendront tout au long de cette émission. Bonjour Mike Viennot.
Bonjour, ça va bien?
Ça va et vous?
Très bien.
Vous représentez le Canada, vous êtes libraire à Montréal dans la librairie Monet et la semaine prochaine nous serons au Salon du Livre de Montréal. On vous verra j'espère.
Oui, j'aimerais bien aller vous voir, on va se rencontrer.
Parfait. Pour la France, on retrouve Thomas Auxerre de la librairie L'Amandier. Vous êtes à Puteau, juste à côté de Paris La Défense. Bonjour Thomas.
Mais oui, bonjour Emmanuel.
Tout va bien chez vous?
Ouais, tout va bien.
Tout va plutôt bien. c'est la blague. Voilà, c'est notre blague régulière. En Belgique, c'est Nathalie Clairin de la librairie de la Mazrine à La Hulpe. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez donc la Belgique, tout va bien pour vous?
Oui, très bien.
Très bien. Bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse, dans la librairie Atmosphère à Genève. Et on va commencer avec vous, vous allez nous raconter une histoire de libraire en ce début d'émission.
Oui, alors vous savez, l'autre jour, j'ai une femme un peu bon chic, bon genre, dans certain âge, qui est entrée dans la librairie et qui me dit « Je cherche une histoire des saints Et je lui dis « Bah écoutez, j'ai pas grand-chose en stock, par contre, si vous voulez, je peux chercher sur l'ordinateur. » Et elle a fait quelque chose que j'aime pas trop, c'est qu'elle a mis sa tête par-dessus mon épaule pour regarder ce que je tapais. Et ça me stresse. Et dans la spontanéité, j'ai tapé « Histoire des saints » avec mon esprit mal tourné, S-E-I-N-S.
Oui.
Oh, j'ai eu une espèce de décharge de l'autre côté. Je me retourne et horrifiée, comme une vierge effarouchée, elle s'écrie « Ah non, pas cela !»
C'est le cas de le dire, oui.
Et j'ai mis un moment à comprendre qu'en fait, elle cherchait sens, S-I-N-T-S. Dans ces cas-là, ça me bloque.
Je vais vous avouer que quand vous l'avez dit, j'ai pensé comme vous. Hein.
Donc,
je dois avoir le même esprit tourné à votre façon. Parce que
ça me rassure.
Je ne savais pas où vous alliez, mais du coup, oui. Bon, c'est parfait. Merci pour cette histoire, Claire. À tout à l'heure. On va écouter de la musique tout de suite avec un artiste cher à Philippe Dian. Proclaiming everything I write, you're the light burning bright. Lead onward through the night. Oh. Sur cette musique de Marc Kozelek que vous citez dans votre livre et qui apaise votre personnage. Bonjour Philippe Dian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Comment vous portez-vous déjà? Parce que j'ai raconté toute l'histoire, hein, vous le savez.
Ah, je ne savais pas que j'allais raconter toute l'histoire, non. Je vais très mal, très très mal, mais d'un seul coup, être dans un studio avec des gens au visage sympathique, ça va nettement mieux.
Mais si vous allez mieux, parce que vous avez eu le Covid en fait, c'est ce que j'expliquais, puisque vous n'avez pas pu venir.
J'ai perdu ma chatte, moi aussi c'est pareil, il faut faire gaffe quand on dit j'ai perdu ma chatte, c'est pose toujours, voilà, bon bref. Mais d'une manière, j'ose pas en parler, parce qu'il y a tellement de gens qui ont souffert et qui souffrent encore de cette maladie, que moi ça a plutôt été une plaisanterie.
Mais parce que vous étiez
vacciné aussi, il faut
le dire. Double vacciné.
Voilà.
Ouais. Ouais.
Voilà, vous publiez Double Nelson. On est ravis de vous accueillir, enfin.
Double Nelson et double vacciné, hein. C'est exprès, c'est ça qui est.
Chez Flammarion, un roman d'aventure aux situations parfois improbables. Un écrivain rencontre une jeune femme par hasard dans un parc alors qu'il est en manque d'inspiration. Elle lui tombe littéralement dessus. C'est un choc.
À pieds joints.
Oui.
Ah oui, elle tombe du ciel, elle lui tombe dessus. Et non seulement elle lui tombe dessus, mais elle va se mettre à l'emprisonner dans ses bras, à le frapper. Donc elle lui met une volée, elle lui met même des serflex pour pas qu'il bouge.
Ouais.
Et en fait, c'est parce qu'elle se trompe, et c'est une femme qui fait partie des forces spéciales, et ils se sont trompés.
Alors c'est une femme forte.
Elle vient quand même à l'hôpital, et elle va lui dire, je suis désolé, mais elle est en tenue normale, elle n'est pas en treillis. Et l'histoire d'amour commence.
Alors c'est une femme forte, d'une certaine virilité, elle se débat dans les préjugés et Luc, l'écrivain, se débat lui dans l'écriture de son roman. Ils sont tous les deux dans la lutte. Et Double Nelson, Philippe Djian, c'est une prise de catch qui consiste à immobiliser l'adversaire et à le faire abandonner. Donc la relation va être houleuse, forcément.
Oui, sauf que c'est une des seules prises que je connaisse qui n'est pas violente. C'est fait pour que l'adversaire dise stop, j'en peux plus, j'arrête, on arrête. Donc c'est pas non plus brutal, c'est pas comme un match de boxe ou un truc comme ça où il y a du sang partout et tout. Non, et je pense que dans la vie des couples en général, ça se passe heureusement souvent sans qu'il y ait du sang qui éclabousse les murs. Mmh. Mais il se trouve qu'à mon avis, vivre en couple, ça suppose que forcément, mais c'est la nature des humains, c'est-à-dire qu'on est tout le temps à essayer de prendre l'ascendant sur l'autre. Mais oui, je pense
ça,
que les humains, ouais, mais c'est une histoire de...
De domination, quelque part.
Oui, de domination, mais en même temps avec une envie de plaire à l'autre. C'est à la fois de la soumission, mais c'est de la séduction en même temps. Mmh. C'est compliqué, hein, mais la vie des couples, elle est très compliquée. Donc...
Alors pour eux, c'est compliqué parce que effectivement, elle fait partie des forces spéciales et qu'elle a tout intérêt, au mépris du danger, à accomplir des missions. Et lui, coûte que coûte, il doit terminer son roman. Peu importe les moyens pour lui aussi.
Lui, c'est compliqué parce qu'il avait dans l'idée que c'était simplement quand qu'il se trouvait en situation de rupture en passant d'une femme à l'autre, que ça fonctionnait pour le roman. C'est-à-dire qu'il était mal dans sa peau quand il avait quitté une femme, mais ça lui permettait de travailler. Et là, le problème, c'est que quand il quitte cette femme, il ne peut pas travailler non plus, donc il n'est pas bien.
Alors c'est vrai qu'il dira que ce n'est pas le moment pour lui d'avoir une histoire d'amour. Il a son roman à écrire, cet homme-là. Edith, c'est l'intrus qui peut parasiter l'avancement de son travail. C'est aussi peut-être une intruse qui va lui donner des ressources pour écrire. C'est ce qui se passe un peu. Et Philippe Djian, vous écrivez à un moment, c'est Luc qui parle. « Je ne suis pas libre parce que j'ai un roman à écrire sur le dos. C'est une vraie vacherie. C'est pire qu'une femme. Ça ne dort jamais. » Ça demande une attention permanente, ça bouffe toute l'énergie, ça siphonne les rêves et ça bousille les reins.
On est bien en train de parler du roman. Hein.
Oui, hein, parce que c'est limite. Hein.
Oui,
c'est limite macho, on va dire.
C'est hyper compliqué, moi je m'en aperçois, parce qu'après avoir vécu et continué à vivre depuis 50 ans avec la même femme, je vois à quel point je peux être emmerdant quand j'écris, même quand j'écris pas. Donc c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre, parce que je dis à ma femme souvent, mais si j'étais quelqu'un qui part à son travail le matin à 8h, elle est tranquille jusqu'au soir où il rentre. Moi je suis là tout le temps. Sans y être.
Voilà. Et oui,
Donc ça complique la sauce.
Mais comment vous faites alors quand vous écrivez un roman, vous ?
Comment je fais ? J'essaie de trouver des espèces de petites failles, des petits interstices pour essayer de me glisser et écrire. Et puis il y a toute la nuit, j'ai la nuit.
Mmh. C'est une vraie vacherie, comme vous dites, d'écrire un roman ?
Oui, c'est parce que c'est un truc qui vous prend tout. Ça prend tout en même temps et ça prend même le pas sur des choses qui sont plus importantes dans la vie. Et ça, c'est assez terrible. Donc j'en veux beaucoup au roman. Et je dis même à un moment que je souhaite pas à mon pire ennemi d'être écrivain.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est pas drôle, puis c'est drôle en même temps. Moi, je prends du plaisir quand j'écris, mais il y a des moments où j'en ai marre, où j'ai envie de faire autre chose, où ma femme veut aller se promener au moment où je suis en plein dans un paragraphe, je dis je peux pas y aller, et elle est pas contente. Et... Donc il faut que j'arrête. En général, c'est moi qui arrête et qui vais me promener. Donc voilà, ça complique l'écriture du roman.
Alors Luc, le personnage, pour couronner le tout, il va se trouver confronté à la compagne de son voisin, qui se révèle être érotomane, et qui a bloqué sur lui un jour lors d'une séance de signature. Elle est obsédée par Luc, et elle est persuadée qu'ils sont faits pour être ensemble.
Mais c'est ça le problème des érotomanes, c'est que c'est pas du tout un truc sexuel. Hein. C'est-à-dire que l'érotomane, plutôt essayer d'amener l'autre à lui révéler que c'est la plus belle femme ou le plus bel homme du monde, et que voilà. Et donc c'est plutôt la compagne d'un type qui vient d'emménager à côté de chez lui, Et elle va se révéler à lui en lui disant, mais c'est un truc assez drôle parce que ça m'est venu d'une histoire vraie qui m'est arrivée avec Stéphane Escher.
Ouais.
C'est-à-dire que Stéphane Escher, il y a une femme qui le suit depuis 20 ans,
ah oui,
qui s'assit au troisième rang et qui dit, tant qu'il ne m'a pas regardé dans les yeux, le concert marche pas bien. Mais dès qu'il me regarde, ça va mieux. Et bah oui, elle est persuadée de ça, lui il la connaît pas. Et l'autre fois elle me dit, mais c'est qui la dame qui est à côté de lui, c'est quoi? Bah je dis, bah c'est sa femme. C'est sa femme, mais il a pas de femme. Je dis, bah si, il a une femme.
Ah parce que vous avez communiqué avec?
Ah ben, elle est tout le temps, elle me suit dans mes lectures pour que je serve de go-between entre elle,
ah oui,
et Stéphane, des petits mots.
Ah, du coup, vous êtes harcelé aussi, de votre côté?
Oui, d'une certaine manière, mais bon, ça va pas plus loin. Donc, mais quand même, c'est assez bizarre. C'est un truc très, très...
Oui, j'allais vous demander si vous aviez eu à gérer ça un jour, oui. Vous, directement, ça n'est jamais arrivé?
Si, ça m'est arrivé un jour. La seule personne à qui j'ai répondu en tant qu'écrivain, ça s'est mal passé parce qu'elle pensait que si j'avais pas réussi à la faire publier, c'était parce que j'étais jaloux et que je voulais pas qu'elle publie ses romans. Et en fait, un jour, ça s'est tellement mal passé qu'elle m'a dit, j'habitais pas à Paris à l'époque, et quand elle a su que je venais me réinstaller à Paris, parce que je suis un Parisien de naissance, elle m'a dit, mais regarde derrière toi quand tu marches dans la rue, parce que t'es chez moi ici, et tu feras pas long feu. Et je me suis dit, bah ouais, bah, je fais attention maintenant, entre le Covid et elle, je sais pas de quel côté me tourner.
C'est dangereux
d'être écrivain. Non, mais c'est incroyable, c'est terrible ça. C'est une vraie maladie en même temps, c'est un
mais
truc
oui.
qui se soigne pas, qui toute une vie est gâchée par ça.
Quoi. Il y a des histoires terribles, hein, des faits divers terribles autour de ça, hein, parce que ça existe avec des personnes anonymes aussi. Hein. Ouais. Allez, les libraires, Philippe Jean, vous le savez, on a des libraires qui ont lu votre roman. Ne faites pas cette tête, tout va bien se passer.
J'en attends un en particulier.
Ah bon, lequel?
Oui, je vous le dirai après, vous verrez.
Bah choisissez, tiens, on commence par qui?
Le Canada.
Allons-y, Mike Vienno.
Ben écoutez, oui, je demeure un peu mitigé sur cette lecture.
Ah oui.
Ben voilà.
Évidemment, je reconnais le style d'auteur, je retrouve des thématiques, je distingue assez rapidement ses manières, mais j'arrive pas à prendre un total plaisir dans ma lecture. Jean s'amuse avec l'écriture, c'est vif, ça secoue, ça heurte la lecture. Ultimement, le livre est un réel match de lutte où je me retrouve spectateur et participant. Il en demeure que l'écriture est fluide, aérienne, on y passe un bon moment. Et pour garder le même champ lexical, je dirais que Double Nelson n'est pas une prise du sommeil, mais il ne m'a pas laissé KO.
Bon, mais enfin, c'est mitigé. Comment vous saviez qu'il était mitigé?
Que le Canada était mitigé,
oui,
parce que toutes les mauvaises critiques que j'ai eues, elles viennent du Canada.
C'est vrai. Dans l'émission.
Tous, ils se sont tous mis. Non, mais c'est un pays froid, hein, puis ils sont bizarres là-bas quand
même. Arrêtez,
hein,
mais pas du tout.
Moi, j'adore le Canada, mais je ne sais pas si je vais y retourner vite fait, parce qu'ils ont l'air bizarres quand même.
Mais non, arrêtez.
Il fait froid
là-bas. On salue tous les auditeurs de ici, Radio-Canada Première, qui nous écoutent en nombre et qu'on adore aussi. Mais bon, ah oui, dans l'émission, vous avez été critiqué par le Canada, j'ai pas souvenir.
Non, c'est dans les critiques.
Ah, en général? Ah
oui, en général.
D'accord.
Mais ça vient que du Canada, au moins c'est groupé. Donc je sais où il faut pas que je me pointe. Mais ça va. Non, mais moi je prends tout à la rigolade parce que je me prends pas pour un grand écrivain. Et le travail que je fais en général, c'est pas celui que repèrent les critiques. Bah voilà, on se fait pas de mal, on se tape pas dessus, mais on s'entend pas, on se comprend pas. Mais c'est pas grave, c'est
nombreux...
bien, la vie elle est belle comme ça.
De nombreux auditeurs nous écoutent au Québec. Donc si vous aimez Philippe Jean, envoyez-nous des messages, on lui transmettra. Allez, avec la Belgique, on va enchaîner avec la Belgique, ça vous va?
Ça va super bien avec la Belgique. J'ai démarré avec le plus difficile, donc ça va.
Nathalie Clairin.
Oui, bah écoutez, moi, en réalité, j'ai eu la sensation dès le début d'être un peu comme une voyeuse par rapport à ce duo en difficulté, un petit peu comme la voisine indiscrète, et c'était pas totalement agréable. Ce qui a fait écho en moi, c'est la complexité des relations. Ça, j'ai vraiment aimé, mais je n'ai quand même pas réussi à me faire vraiment emporter par les personnages, et je crois que c'est peut-être parce que l'intrigue tournait pour moi un peu trop exclusivement autour de leur relation.
Et pourtant, c'est une vraie histoire, un vrai roman d'aventure. C'est palpitant, il se passe plein de choses. On peut être, en tout cas, c'est mon cas là pour le coup, être fasciné par cette histoire. On va voir du côté de la Suisse, Claire Renaud, vous n'êtes pas d'accord avec vos collègues, je crois.
Oui et non, en fait. Moi, j'ai marché, en fait, dans votre livre.
Oui.
D'abord parce que c'est une histoire d'amour et que je ne m'en lasse pas des histoires d'amour. Et puis qu'en plus, elle nous réserve plein de surprises. Alors moi, j'ai plutôt participé à ce combat en disant « Allez, vas-y maintenant, tu la mets dehors, elle exagère. » Donc j'étais plutôt dans le jeu que spectatrice. Je trouve que votre écriture est entraînante, que donc on a du plaisir à lire votre livre et qui contient tout ce qu'il faut, le cynisme, l'humour, la tendresse et puis il y a des rebondissements. Alors j'ai plutôt eu du plaisir à lire comme un bon film qu'on regarde le soir.
Ben voilà,
Oui. C'est déjà énorme.
Bah, bien sûr.
Oui. Tout à fait content. J'étais prêt à rayer la Belgique aussi. Non, ça va.
Non, là, c'est la Suisse. Là, c'est la Suisse.
Ah, c'est la Suisse. Ouais. Bah, non, la Suisse. Non, on est des amis, hein, Suisse. J'ai que des amis.
Bon, Philippe Jean, il y a plein de thèmes dans ce livre. On s'y retrouve parce qu'il y a plein d'histoires. Il y a histoire d'amour aussi, mais il y a aussi des thématiques. Alors, je sais que vous avez longtemps voulu parler du style. Maintenant, vous parlez des thématiques. C'est très agréable, d'ailleurs, d'échanger avec vous en entrevue puisque on peut parler de plein de choses. Il y a, par exemple, le sujet de la détermination féminine. On en a pas parlé, mais c'est très présent dans cet ouvrage. Dans votre roman, les femmes de votre histoire, rien ne les arrête. Et ça fait peur aux hommes, ça. Notamment pour s'engager plus, ça peut faire peur.
Ah ben oui, parce que les hommes sont des trouillards, a priori. Ça, on est tous comme des peureux. Et mettre en place une relation, ça fait peur. Et je pense que les femmes ont moins peur que nous pour ça. Mais elles ont d'autres raisons aussi pour avoir moins peur. Mais oui, ça se passe pas toujours bien, mais... Vous savez, le truc de la détermination, ce qui m'a amusé, c'est que quand j'ai lu, j'ai essayé, j'ai trouvé deux ou trois articles sur des femmes qui faisaient partie des forces spéciales. Il y en a une qui expliquait que quand elle avait fait les examens, enfin les tests, qui étaient des textes très physiques, évidemment que sur un bras de fer, le type qui était en face d'elle, il l'aurait aplati tout de suite. Oui. Mais quand il y avait les moments où il fallait se carapater dans la nature avec un truc de 40 kilos dans le dos, dans la boue et sous la pluie, celle qui était devant, c'était elle.
Et oui, et oui.
Et les types disaient « Waouh !» Pourquoi ? Mais parce que c'était au niveau du mental. Elles sont plus fortes au niveau du mental. C'est ça, la détermination.
Bon, il y a aussi une petite curiosité, Philippe Jean. Oh.
Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais.
On va terminer avec notre nouvelle séquence nommée « La curiosité ». Le principe, piocher dans un livre d'un de nos invités, une curiosité sans rapport direct avec l'histoire, mais qui mérite de s'y attarder. Il y a votre personnage, Luc, qui aime cuisiner des pâtes à l'ail, Philippe Jean. Comment un écrivain comme vous se dit « Tiens, je vais lui faire faire des pâtes à l'ail à celui-là »
Je voulais pas m'embarquer dans un bœuf bourguignon parce que c'était trop compliqué. Il y en a qui mettent du chocolat dedans, ils ont raison. Oui. Mais les pâtes à l'ail, pour moi, c'est à la fois le... C'est un rapport avec l'écriture.
Ah ouais.
C'est un truc excellent, mais qui en même temps est d'une simplicité biblique.
Ouais.
Donc,
et
j'adore ça.
Et très vite.
Plus j'arrive à être simple dans mes phrases et dans ma langue,
ouais,
plus je suis content. Donc oui, les pâtes à l'ail, c'était simple.
Alors c'est quoi votre recette des pâtes à l'ail ?
Bah, les pâtes à l'ail, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien faire revenir l'ail avant qu'il soit trop cramé, donc
ouais,
vous l'enlevez avant.
Ouais. Dans de l'huile d'olive ?
Dans de l'huile d'olive, évidemment.
Mmh,
et puis
de l'ail haché.
Servir chaud, prendre un peu du jus qui a encore du jus de cuisson. Et... Mais
voilà, on jette en fait une...
C'est comme les œufs sur le plat, hein, je veux dire, c'est délicieux.
On jette dans une poêle des linguines cuites
oui,
al dente, très al dente d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Dans cette poêle, on fait revenir auparavant et délicatement de l'ail haché, un piment oiseau aussi.
On peut.
Et on ajoute du persil, un peu d'eau de cuisson, les pâtes comme ça à feu vif, très vite, et c'est prêt.
Ah mais c'est un délice. Enfin, moi...
Mais ça se rate très facilement, hein, faire
oui,
attention.
Oui, mais vous savez, c'est...
Comme un livre, hein, d'ailleurs.
Tous les grands trucs, que... Alors, mais... sauf que... Alors, vous allez trop vite pour
je
moi.
Je ne parle pas du vôtre.
Sauf que j'ai toujours pensé qu'écrire un mauvais livre, c'était aussi difficile que d'écrire un bon livre.
Ah bon?
Donc je ne me moque jamais des gens qui écrivent des mauvais livres.
Ouais. Pourquoi c'est difficile,
d'écrire un mauvais livre?
Bah, parfois, on s'en rend pas compte.
Mais ça, c'est encore un autre problème, mais n'empêche que c'est aussi difficile. C'est compliqué d'écrire
ouais,
un livre.
Ouais, c'est vrai.
Donc il y en a qui peinent, qui ont du mal, et puis le résultat est pas terrible, mais c'est aussi difficile.
Bon, merci beaucoup Philippe Jean. Double Nelson est paru chez Flammarion, vous allez rester avec nous. On va entendre tout à l'heure un reportage à La Réunion dans un cimetière sur une tombe très particulière. Vous allez frissonner avec nous. Le groupe créole Bonbon Vaudou est installé, lui, dans notre studio. Il s'est installé pendant cet entretien pour un titre acoustique. Ils sont là, ils sont prêts avec une guitare très colorée. Vous allez aborder le thème de la violence conjugale dans ce titre, un extrait de leur tout nouvel album. Voici Bonbon Vaudou dans le studio de la librairie francophone.
De colère en cas d'école, il est. De colère en cas d'école, il est. De colère en cas d'école, il titube des grises et chancelle lui. Fort comme un bœuf, sous comme un homme, dangereux, dangereux. De colère en cas d'école, il titube des grises et chancelle lui. Fort comme un bœuf, sous comme un homme, dangereux, dangereux. De furie, il a commis l'homme, l'acte de peu de fierté. Menaçant, violent, celle qu'il nomme sa moitié. De furie, il a commis l'homme, l'acte de peu de fierté. Menaçant, violent, celle qu'il nomme sa moitié. De colère, de colère, qui dans malaxe excusez menace dangereux dangereux le qui dame paniqué dans paniqué paniqué dans malaxe excusez menace dangereux dangereux puis le fait le coup du remords culpabilisation max la relève l'embrasse ambigu tendancieux puis le fait le coup du remords culpabilisation max la relève l'embrasse ambigu tendancieux. Jaloux, fumace, faut pas se mentir. Colère, tenace, cognée, blêmir. Fragile, ficelle, casser le désir. Fragile qui, moi, faut pas se mentir. Fragile qui, moi, faut pas se mentir. Faut pas se mentir, on est fragile. Faut pas se mentir, on est fragile. Fragile, faut pas se mentir, on est fragile. Faut pas se mentir, on est fragile. De choc et détresse tressée, elle ne dit mot se cramponne. Le genou, le sacrum, douloureux, douloureux. De choc et détresse tressée, elle ne dit mot se cramponne. Le genou, le sacrum, douloureux, douloureux. Elle oscille de douleur, mais aussi du mouvement tragique. Instinctif, électrique, attrape une lame et d'un feu. Elle oscille de douleur, mais aussi du mouvement tragique. Instinctif, électrique, attrape une lame et d'un feu. Attrape une lame et d'un feu. De colère. Attrape une lame et d'un feu. Attrape une lame et d'un feu. De colère. Attrape une lame et d'un feu.
Bonbon vaudou dans le studio de la librairie francophone avec deux colères et bravo. Philippe Dian qui a souri tout le titre.
Super morceau.
Super morceau.
Je vais les retrouver après.
Bon, installez-vous le temps de cette virgule, comme on dit.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Oriane Lacaille.
Bonjour.
Bonjour Jérém.
Bonjour.
Vous formez le groupe, le duo Bonbon Vaudou. Qu'est-ce que c'est un bonbon vaudou?
Ah, la bonne question. C'est une interprétation ouverte. On aime bien cette espèce de petite possibilité de se faire à chacun sa petite sauce avec ça.
D'accord, on interprète. Oui. Alors Oriane, vous êtes la fille de René Lacaille, grand musicien réunionnais, inspiré par le Séga et le Maloya et très attiré par les rencontres de tous horizons. C'est un sacré personnage que j'ai eu la chance de rencontrer pour une émission sur l'île il y a quelques années. Que vous a-t-il transmis, René?
Oh là, plein de choses. Principalement la musique, en fait. C'est vrai que déjà, il joue toute la journée, mon papa. Et donc, il est tout le temps en train de jouer de l'accordéon, principalement l'accordéon. Donc, avec mon frère, il nous a transmis très fort la musique et même la langue créole par la musique.
Et la musique de Bonbon Vaudou, c'est ça, des textes qui disent les choses, comme on l'a entendu là sur les violences conjugales, avec des rythmes festifs et même paradoxalement joyeux. C'est ça, Jérém, que vous voulez...
Oui, c'est ça. C'est ce que représente ce collage de mots d'ailleurs. Et c'est ce qu'on voulait pousser dans ce nouvel album Cimetière Créole, ce paradoxe joyeux et festif dans un lieu qui a priori ne l'est pas. Et cette musique de danse sur des thèmes qui peuvent être un peu sombres, un peu lourds.
Alors beaucoup de thématiques, il y a ce titre Rituel, interprété avec René Lacaille justement, qui se moque gentiment des rituels, traditions vaudou et autres croyances.
Visitage, maquillage, tatouage, regret, sacrifice humain, bouquet bouquet de jasmin.
Rituel.
Poupée vaudou, tétine, doudou.
Rituel.
Oracle voyant.
Rituel.
Chaman président.
Rituel.
Zigouiller son père.
Rituel.
Zigouiller son père.
Rituel.
Bar mitzvah.
Méditer s'assouplir.
Ouvrir ses chakras.
Baptême, onction.
Ramadan doit.
Rituel.
Mur.
Menottes.
Et il y a plein de choses dans ce titre, une critique aussi l'air de rien, des formalités administratives qui sont obligatoires pour circuler dans le monde. Vous racontez, vous osez hein, dire ces choses-là et vous dites s'il n'y avait pas la musique légère, le message passerait mal. Il passerait mal ou bien il serait trop politique, tout simplement, Oriane ?
C'est vrai que je pense que c'est notre manière à nous, on a besoin de ça pour pouvoir dire ces textes-là qui sont importants pour nous. On a vraiment besoin de cet entrain, de ce groove, mm-hmm. de ces percussions et ces mélodies et cet entrain-là qui nous porte en fait pour dire ces textes.
Parce qu'avec la joie et le sourire, on peut tout dire, c'est ça ?
Oui, et puis c'est notre manière, je pense. On n'a pas envie de s'assombrir ou de s'alourdir, même si on a envie de parler de textes qui peuvent être lourds ou sombres.
Mm. La poésie est au cœur de vos textes. Vous avez même adapté un poème de la poétesse réunionnaise Barbara Robert qui écrit « Tu dis ma langue et pas toi. C'est pas son Larousse qui m'a parlé. Ces mots parlés, affûtés de tous côtés, tissent ma parure d'humanité. »
Oui, que rajouter à ça. Son écriture, moi, me touche beaucoup. C'est une personne qui écrit en français et en créole. Mmh. Et qui écrit de la poésie en français et en créole. Et parfois, elle mélange les deux langues. Donc, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et c'est un texte qui parle de la créolité au sens large et dans toute sa beauté, la beauté de la créolité.
Alors, vous l'avez adapté avec ce titre « Foncaire
oui. »,
collaboration Daniel Warraud et oui. Pierce Faccini.
Tu dis mon langue, les patois, les pas sont la rousse, moins la rodée, son petit causé coupe trois côtés. Taille mon costume d'humanité.
Tu dis ma langue à patois. C'est pas le Larousse sans phrasé. Son petit parler coupe trois côtés. Taille mon costume d'humanité.
Foncaire, tisanaire, poissonnier.
Cette langue créole, Oriane Lacaille, vous n'avez pas beaucoup parlé, vous, dans votre enfance. Vous racontez ça même avec votre papa ?
Non.
C'était plutôt en français, à la maison ?
Oui. Oui, moi j'ai grandi en France métropolitaine et avec une maman de métropole. Donc à la maison, on parlait en français. Mon papa ne nous a pas parlé en créole. Donc, c'est en même temps beaucoup d'enfants de personnes déracinées vivent ça, c'est-à-dire que je sais pas, il y a une envie d'intégration, je pense, qui fait qu'on parle la langue du pays où on vit.
Alors vous, Jérém, vous êtes aussi le fruit du métissage, avec un papa tunisien et une mère française. C'est ce qui donne aussi de la couleur musicale à Bonbon Vaudou.
C'est vrai, oui, oui, ça fait partie des influences que Oriane, d'ailleurs, m'amène à assumer un petit peu plus.
Oui.
Mais avec notamment une guitare qu'on joue, dont le corps est fabriqué d'un bidon d'huile.
Ouais, c'est la guitare que vous avez apportée, là ?
Alors, celle-ci, non, c'est encore une autre guitare décorée.
Très décorée, ouais.
Ouais, de couleur festive mortuaire. Ouais. non, l'autre ressemble justement peut-être plus à un saz avec des cordes doublées et nous oblige à aller, m'oblige moi à aller un peu plus vers les musiques. D'Afrique du Nord.
C'est ça.
Et donc à assumer ce métissage.
Et alors vous arrivez à jouer de la musique avec tout, oui, pareil. Avec une bouteille d'eau, vous êtes capable. C'est vrai ?
Ben on aime bien. Alors à la maison, on est tout le temps en train
d'eau,
de taper
là.
Sur des
Attention,
trucs.
Attention, elle est ouverte.
Voilà, oui.
Essayez de voir.
Alors par exemple, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, ça fait une petite percussion.
Ah ouais, sur le bouchon.
Voilà, ou si on la secoue.
Un peu dur en marécage.
C'est un peu étrange. Hein.
Non, mais ça sonne bien, c'est pas mal. C'est bien. Et la créolisation, c'est important aussi hein, pour vous, Bonbon Vaudou. La construction d'une identité, vous dites, c'est ça, la créolisation. C'est le brassage culturel et donc l'avenir de l'homme. C'est à contre-courant, ça, d'une certaine parole politique actuelle qui milite pour un repli et une identité franche, une identité claire.
Mmh. Oui, elle est d'autant plus importante à porter.
Vous n'êtes pas d'accord avec ces positions politiques aujourd'hui ?
Évidemment que non, c'est absurde et violent. C'est ça qu'il faut combattre de toutes nos forces. Alors combattre, peut-être pas en s'affrontant, puisqu'il ne faut pas provoquer la défaite des mots.
Mmh.
qui amènerait encore plus vite à l'affrontement, mais justement peut-être en amenant avec une certaine douceur, une certaine radicalité, un certain contrepoint. Voilà, c'est un peu.
Et la peur de certains citoyens, ça ne peut pas s'entendre ?
La peur, elle s'entend toujours, mais la peur est le propre de l'homme, donc on peut pas baser nos réactions et nos décisions collectives sur la peur.
Bon, il y a la mort, hein, vous en parliez tout à l'heure, le cimetière aussi dans cet album. Le titre Cimetière créole est inspiré par le cimetière marin de la baie de Saint-Paul à La Réunion. Il y a un rapport particulier à la mort et au cimetière sur l'île. On va tout de suite l'illustrer. On va partir à La Réunion grâce à un reportage réalisé à Saint-Pierre sur la tombe de Citarane. Vous connaissez
Oui,
la tombe de Citarane. Alors c'est l'écrivain Jean-François Samelon qui nous a emmenés sur la tombe. On écoute ce moment de radio très particulier et on conclut cette discussion juste après avec Bonbon Vaudou. Nous sommes en front de mer ici à Saint-Pierre, à La Réunion, devant un lieu très important pour tous les Réunionnais. Bonjour Jean-François Samelon.
Bonjour.
Vous êtes poète, romancier, essayiste. Vous avez fondé ici à La Réunion l'Union pour la défense de l'identité réunionnaise qui œuvre notamment pour promouvoir la culture et la littérature de l'île. Et vous vous intéressez aussi dans vos romans à l'histoire et aux légendes de La Réunion. Et vous avez choisi de nous emmener dans un lieu un peu particulier. Ça m'a surpris moi, au départ.
Ce lieu, il est quasiment mythique, si je puis dire. Bon, déjà, le cimetière...
Alors déjà, c'est le cimetière, oui. Commençons par le début.
Voilà. On est là devant le cimetière de Saint-Pierre, qui est dans notre dos. En face de nous, il y a la mer, il y a le ciel, un temps magnifique. Mais derrière nous, quand même, le cimetière, il y a la tombe de Citarane, qui a été un criminel abominable vers les années 1909-1911. Avec ses amis Saint-Ange et Fontaine, ils ont tué 2, 3, 4 personnes dans des conditions exécrables et ils ont été arrêtés, Citarane et Fontaine, guillotinés. Donc leur corps se trouve ici au cimetière de Saint-Pierre.
Voilà, on va entrer dans ce cimetière. Tout ce que l'on doit dire sur Citarane de négatif, on va le dire ici, car à l'intérieur il y a des gardiens, notamment un gardien qui surveille la tombe 24 heures sur 24, qui se sert finalement des offrandes aussi, disons les choses, oui, pour pouvoir survivre, en même temps un peu logique. Mais sur place, on ne va pas pouvoir dire grand-chose de négatif sur lui.
Non, parce que déjà, il y a beaucoup de Réunionnais qui ont transformé, si vous voulez, cette figure criminelle de Citarane en une figure de héros. Très tôt, après 1911, ils ont vu en lui une figure de vengeur, une sorte de Zorro, qui vient les venger de l'esclavage qui a duré près de 2 siècles à La Réunion, puisque Citarane est africain, un mozambicain. Et donc, il a osé, si vous voulez, défier la loi, défier les gendarmes, et en laissant croire qu'il avait des pouvoirs tout à fait extraordinaires. Beaucoup de Réunionnais se sont identifiés à Citarane, mais beaucoup de Réunionnais aussi craignent Citarane. Ils ne veulent même pas en prononcer son nom. Après, c'est une question de croyance.
On arrive au fond du cimetière, en fait, sur le côté gauche du cimetière. Il y a un mur gris, évidemment, qui délimite l'espace consacré aux morts. Et puis, tout au fond, donc, sur le côté gauche, il y a une grande croix noire que l'on voit d'ici, avec un bandeau rouge autour. Et puis voilà, le frangipanier qui est juste au-dessus de la tombe de Citarane. Frangipanier blanc.
Blanc, très vieux.
Très vieux,
âgé, oui.
Alors il s'étend horizontalement sur une dizaine de mètres. Et ce qui est très troublant aussi en voyant d'ici, c'est que sur le côté gauche du frangipanier, il n'y a pas de feuilles. Mm-hmm. Et juste au-dessus de la tombe, oui, il y a plein de feuilles et plein de fleurs.
Voilà, exactement.
Et juste, ça inquiète dès qu'on arrive.
Voilà, et juste au-dessous du feuillage du frangipanier et des fleurs blanches, donc il y a l'ombre d'Amouni, le gardien de la tombe.
Voilà, avec une chemise bleue.
Une chemise bleue, on dirait que c'est le fantôme de Citarane qui est là.
Bon voilà, donc la tombe de Citarane qui est peinte en rouge avec des traces noires, de grosses traces noires car on brûle des choses ici.
Oui, on brûle des bougies, il y a des cigarettes qu'on allume et puis qu'on laisse normalement dans une soucoupe pour que Citarane puisse profiter de cela, du parfum des cigarettes, du parfum du rhum, des alcools.
Bonjour monsieur, un monsieur qui a rejoint la tombe. et qu'il la nettoie un petit peu. Vous la nettoyez, la tombe ?
Bonjour, monsieur. C'est pas moi qui nettoie, c'est quelqu'un d'autre qui nettoie, il vient une fois par semaine.
D'accord. Mm-hmm. Mais je vous ai vu prendre les fioles, les...
Oh, j'enlève seulement les chopines, ouais. Pas les chopines et les bouteilles en plastique. Ouais.
Les bouteilles de rhum. Et vous venez souvent ici ?
Ouais, bien sûr, une fois par semaine.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous y faites une fois par semaine ici ?
Moi, je prends seulement des petites fioles... De vin.
Vous avez pris des petites fioles de vin et de rhum.
Ben, voilà.
Que vous avez mélangé en plus dans une fiole.
Hein?
Ouais.
C'est parce que moi je connais. Lui, il sait faire la sienne. Moi je connais faire la mienne.
Vous faites votre mélange et lui voilà. Fait le sien.
Voilà.
D'accord. Okay. Donc le mélange de rhum et de vin, ça se boit.
Ça se boit, bien sûr.
Donc vous vous servez un peu sur la tombe.
Bien sûr. Ah oui, mais moi je me sers un petit peu.
Je suis venu plusieurs fois sur la tombe et une fois, j'ai vu des sacrifices d'animaux, coq-poule, là sur la tombe de Sidérane, à l'intérieur. Donc, on a versé du sang, des animaux, pour l'abreuver de sang. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je pense que ce que vous mettez, que vous lâchez là, sur le sable, ils font cuire, on va dire. Mais ils le font cuire. Ben oui, rôti poulet, rôti coq.
C'est jamais perdu, quoi. Voilà. Ouais, c'est des sacrifices, mais qui servent forcément à quelqu'un qui passe.
Ça pourrit pas, ça vieillit pas. Et c'est comme ça. Ouais, du rôti coq, rôti poulet.
Bon, merci, monsieur.
Au revoir, France Inter.
Au revoir, merci beaucoup, merci. Bon voilà, on va sortir de ce cimetière, on va laisser le gardien tranquille, le monsieur se servir sur la tombe pour le coup. Merci, bonne journée. Au revoir.
Jean-François Samelong, qui a publié une guillotine dans un train de nuit autour de la figure de Sitaran aux éditions Gallimard. Vous connaissiez cette histoire, Philippe Jean ?
Non, je ne la connaissais pas. Est-ce que je peux prendre la parole deux secondes ?
Allez-y, bien sûr.
Parce que tout à l'heure, Ariane a dit un truc que j'ai trouvé très très important. C'est-à-dire qu'ils ont parlé, le groupe, de
cette
idée de
avec
faire
nous.
Des choses un peu légères et enthousiasmantes avec des thèmes très sombres.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est très, très intelligent parce que c'est le seul moyen aujourd'hui pour faire passer des messages.
Ah oui, ouais.
Et je trouve aussi que c'est, pour un écrivain, un très bon exemple. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de faire des choses qui participent de l'entertainment. On s'amuse, ouais. Mais en même temps, ça n'empêche pas de parler de choses graves. Mmh. Et le deuxième petit point que je pourrais développer, mais je vais juste dire que Jérém a parlé de la perte des mots.
Ouais.
Et je trouve qu'un écrivain aujourd'hui qui ne s'intéresserait pas à la langue... Ça serait grave, parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus les mots ? Le poing se ferme. Et là, on tape sur l'autre. Donc, il faut garder la langue en avant. Et eux, je pense qu'ils font exactement
c'est
ce qu'il faut faire.
Exactement.
Exactement.
Eh oui, c'est ça.
C'est pour ça que je voulais prendre la parole.
Mais je vous en prie. Alors donc, Sitaran, très rapidement pour conclure, Bonbon Vaudou, c'est vrai que c'est fascinant et volcanique, comme vous dites, ce rapport aux morts sur l'île de La Réunion.
Oui.
On a eu l'illustration, là.
Oui, c'est ça. C'est une bonne illustration de la manière... à La Réunion, on peut rire de la mort... Et c'est pas grave, on en parle en riant et ça n'enlève pas l'importance des gens qui sont partis ou même de la tristesse, mais on peut en rire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve génial. Là, c'était une bonne illustration. Mais voilà, on fait un sacrifice, mais quelqu'un va prendre le poulet, il va se faire un bon repas.
C'est ce qu'ils font, hein, on l'a vu. Oui. Et en plus, entre la mer qui est toute proche, hein, elle est vraiment juste à côté, la nature et la mort, il n'y a pas de frontières. Et ça aussi, vous l'illustrez dans votre album. Merci beaucoup, Ariane Lacaille.
Merci.
Merci, Jérém.
Merci.
À très bientôt. Le nouvel album de Bonbon Vaudou, Cimetière Créole, est sorti sur le label Heavenly Sweetness, en CD et aussi en vinyle. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
La librairie francophone.
Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. Première partie, un coup de cœur en Suisse. Claire Renaud.
Oui, un joli petit livre jaune publié aux éditions La Baconnière, Varda s'en va, carnet du Caire de Pierrine Poget. Alors c'est un carnet de voyage qui rend très bien l'ambiance de la ville du Caire et le ressenti d'une étrangère quand on se retrouve face à une ville inconnue. Et puis il y a aussi une quête de soi qui peut parfois paraître un peu intime, mais la poésie qui en jaillit est tout bénéfique et par les temps qui courent.
Bien, Pierrine Poget, donc Varda s'en va, un grand voyage au Caire. Merci beaucoup Claire, un coup de gueule en France, Thomas Auxerre.
Oui, Emmanuel, un coup de gueule. Alors celui-là, il vient vraiment du fond du cœur. C'est sur les retards d'un distributeur en particulier. Mmh. Là, c'est le distributeur MDS qui bat tous les records. On a reçu une petite lettre expliquant en partie les retards. Et moi, je comprends quelques arguments. Il y a des problèmes de papier, du mal à recruter. Je sais qu'ils font les 3-8 pour rattraper le retard, mais clairement, ça ne suffit pas. Moi, j'ai reçu certaines de mes nouveautés jusqu'à 3 semaines plus tard que la date prévue. Voilà. Là, par exemple, le dernier Blackie Mortimer qui est sorti cette semaine, je l'ai pas eu. Et je sais même pas quand est-ce qu'il arrivera. Donc, on passe pour des tartes et des incompétents auprès de nos clients. Alors ça, moi, j'aime pas. Mais alors vraiment, pas du tout.
Bon, vous avez le nouveau roman de Philippe Djian, quand même.
Bien sûr.
Ouais, bon, c'est déjà ça. Bon, bon courage, hein, Thomas. Difficile, hein, le métier de libraire. Bon, allez, dans un instant, le premier roman de la Belge Lou Canche sur un désir sexuel tabou en milieu scolaire et la liberté d'une femme. Voici à présent le nouveau titre de Gaël Faye dans la librairie francophone.
Casse ton pied, ta tête, ta nuque, tout le monde, tout le monde, tout le monde. À l'époque, il voulait pas trop le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le style un blanc, bas un boubou, on fait tout, appelle-nous Foubou. Je fous les subs que tout bougeait, secoue, je mets le fire dans ton igloo. Je frappe un coup de jab comme un nunchaku check si tu connais la ref. Moi, Namboka, le monde est fou, t'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas, Kigali jusqu'à Goma. Décibel à dose létale, yeah, boum et boum et les baffes.
Chanter, danser,
fais boomer les boomers, ok.
Slasher, s'égayer,
fais boomer les boomers.
La vie s'éveiller,
fais boomer les boomers.
Boomer, ça y est, mal est fait,
fais boomer les boomers. Mets du sel dans ta vie, tant mieux, bébé, je mets du pili pili. Je fais danser les jeunes et les vieux, comme le staff Bendabilili. Chez nous, y'a pas de tube de l'été, non, toute l'année c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. Je vais te faire courber un peu les chines, mais cette fois c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins, du rein jusqu'à la rouzizi. Viens me coller un billet sur le front, paraît que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonte de glaçons, je fais boum et boum et le caisson.
Chanter, danser,
fais boumer les boomers,
ok.
Slasher, s'égayer,
fais boumer les boomers.
La vie s'éveiller,
fais boumer les boomers.
Boomer,
ça y est, mal est fait,
fais boumer les boomers.
Chanter, danser,
fais boumer les boomers,
ok.
Slasher, s'égayer,
fais boumer les boomers.
La vie s'éveiller,
fais boumer les boomers.
Boomer,
ça y est, mal est fait,
fais boumer les boomers.
Les infrabasses, les boomers vibrent, fait péter. Allumer les briques, le bal masqué venait fêter. Je construis ma vie, mon œuvre, je suis dans le BTP. Mon son lourd, mon gros boucan vous laisse hébéter. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le stylet capé d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez, tété. Sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je roucoule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Quand y'a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule sans son frein.
Le tout nouveau titre de Gaël Faye, Boomer, dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
RTBF, la première.
France Inter.
Et bonjour, Lou Canche.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Bruxelles, Lou. Votre premier roman, Rien que le soleil, est paru chez Grasset. On en parle beaucoup en Belgique. Vous vivez et enseignez à Bruxelles, mais votre histoire se déroule en banlieue parisienne et à Marseille, dans des milieux dits défavorisés. Pourquoi racontez-vous la vie scolaire en France, du coup ?
Tout simplement parce que je suis française, même si je vais en Belgique.
Ah, aussi,
et
d'accord.
J'ai donc enseigné et commencé ma carrière d'enseignante, si on veut, en France.
D'accord. Alors votre personnage, Nora, est professeure, sans doute comme vous un peu à ce moment-là. Elle s'est installée dans la vie avec un compagnon, dans le confort, mais elle enseigne en banlieue. Elle découvre une certaine brutalité dans son rapport avec les élèves, avec un certain Sofiane. Sofiane qui a 17 ans, qui est proche du décrochage scolaire et elle a très vite une fascination pour lui.
Oui, elle est envoyée en banlieue parisienne et effectivement... Elle est face à un élève, Sofiane, qui commence un peu à jouer avec elle, qui est arrogant, qui est un type d'élève, quand on est prof, qu'on retrouve à peu près dans toutes les classes. mais qui là va réveiller chez elle un désir qu'elle ne connaissait pas.
Mais c'est vrai que ça va plus loin. Elle est séduite par son corps, elle le raconte, elle l'imagine nue même. Elle fantasme sur cet élève, ce qui est assez dérangeant, hein, je vous l'avoue. Locange, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ?
Alors, il se passe beaucoup de choses et elle-même est dans le doute et l'incertitude face à ce qui se passe en elle. Ce qui se joue, c'est un désir transgressif, qu'elle sait transgressif. C'est en même temps quelque chose, je pense, de très courant.
Ah bon ?
Parce que là, c'est aussi... Oui, mais ça reste du domaine du fantasme.
Bah, quand même.
C'est avant tout un fantasme.
Mmh.
Et
ça vous est arrivé, vous, quand... Non, mais je suis désolé de vous poser la question, ça fait Philippe Jean, mais... mais ça me paraît
que quand
étrange.
On est enseignant ou enseignante, on est confronté à des situations avec les élèves qui sont parfois compliquées. Et alors là, c'est à l'adulte de poser les limites, etc. Mais bien sûr qu'il se passe des choses qui sont des liens qui s'approfondissent parce qu'on se connaît, on passe l'année ensemble. Enfin, c'est quand même important ce qui se passe en classe et ce qui se joue. Après, bien sûr, là, c'est un roman. On va du côté de la transgression et du pas de côté, et c'est ça qui enclenche aussi l'action.
Ouais.
En réalité, en tant qu'enseignant, on ne doit jamais franchir certaines limites.
Évidemment. Bon, en tout cas, un jour, elle craque, cette femme-là, parce qu'elle décide de prendre un train et de partir pour Marseille. Elle plaque tout, et elle se donne la liberté de découvrir autre chose. Mais là aussi, elle va être confrontée à la délinquance, à la drogue, aux aventures sexuelles tout juste consenties. Elle cherche à se mettre en danger, en fait.
Oui, c'est une femme qui a été construite de manière assez sage et qui a besoin d'éprouver le monde.
Alors du coup, il y a beaucoup de clichés quand même, hein, Lou, parce que Sofiane est un élève d'origine algérienne qui commet des actes de violence en dehors du lycée. Elle a un ami à Paris qui est artiste et homosexuel. Marseille est une ville parasitée par la drogue. Quand elle ira à Toulon ensuite, elle constate le paradoxe de cette ville riche et de la pauvreté en même temps, même si elle a la mer et de belles bâtisses autour. Bref, tout y passe comme une sorte de caricature. Et ce personnage, on a l'impression qu'elle cherche un peu la caricature.
Il y a des sortes d'archétypes comme ça qui font fonctionner en tout cas aussi ces fantasmes, parce que les fantasmes fonctionnent avec ça.
Mmh.
Et donc comme on est plongé dans sa tête, dans sa conscience, qu'on voit le monde à travers ce qu'elle voit, on voit le monde aussi à travers ce qu'elle a lu et à travers donc aussi des fantasmes.
Mmh. Bon, on va voir du côté de nos libraires, hein, comment ils ont perçu votre roman, Locange. On va commencer avec le préféré de Philippe Jean, avec Mike Viennot au Canada. Mike.
Oui, bon, d'emblée, j'avoue que j'étais bien intrigué par cet univers incertain. Entre le rapport malsain et le désir de l'autre, l'autrice parvient dans la première partie du roman à donner le ton pour qu'on soit intrigué. J'y trouve malgré tout un ton, une signature singulière. Cela augure quand même très bien, je trouve, pour la jeune autrice.
Bien. Allez, La France, Thomas Auxerre, vous avez aimé ce livre, je crois.
Eh bien, oui, moi, ça a été une bonne surprise hein, que de lire votre roman. Je dois dire que le quatrième de couverture ne m'emballait pas trop. Hein, et qu'en démarrant avec une histoire d'amour élève-prof, bon, on va dire que ça sentait un peu le cliché à plein nez. Eh bien, d'une part, je me suis laissé embarquer avec votre héroïne. J'ai partagé surtout son errance et ses doutes. J'ai trouvé ça vraiment très juste. Bah donc, pour moi, une très bonne surprise. Hein.
Bah voilà, très bien.
Bah merci.
On va du côté de la Belgique, Lou, ça vous va?
Oui.
Allons-y, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Mais moi, ça serait tout à fait bien comme Thomas. J'ai été tout à fait touchée par cette jeune femme en quête. J'ai vraiment pris goût à la suivre jusque dans ses excès. Et aussi dans ce que j'ai trouvé être finalement une réparation de son adolescence. Alors, d'un point de vue littéraire, il y a des moments qui sont vraiment des vraies perles. Moi, j'ai trouvé ça puissant et je trouve que ça a beaucoup de souffle.
Voilà, Locange, la vie de nos libraires. C'est un roman sur l'adieu à l'enfance aussi, non ?
Oui, tout à fait. C'est un roman sur la sensation aussi. En tout cas, je l'ai construit comme ça, avec une femme qui cherche à sentir davantage. C'est la question de la brûlure aussi, ou ce qui est dans le titre. Donc, c'est une femme qui cherche la puissance et à sentir vraiment les choses. Et c'est pour ça aussi qu'elle se tourne vers Sofiane, qui est un adolescent, et vers des gens qui risquent aussi un peu leur vie, parce que c'est là où finalement il y a de la puissance et c'est là où ça brûle un peu. Et c'est aussi renouer avec les émotions primaires de l'enfance.
Alors Nathalie, justement, parlait de certains passages littérairement très forts. Je vais en lire un extrait sur la musique de Satie. Satie que vous citez deux fois dans le livre, Locange. Quel arrachement l'a dû à l'enfance. Je ne savais pas qu'en quittant toutes mes assises, il faudrait en plus me déplacer à l'aveugle dans un monde incertain. Quel mensonge l'a dû à l'enfance. Quelle pure perte. Pure, car il reste l'image. On conserve l'image et elle se détache, par bout, dans le fond noir du passé. J'ai perdu les mythologies, j'ai perdu les parents, j'ai perdu le petit frère, j'ai perdu l'espace circonscrit, aujourd'hui déformé à l'infini. Distendu, c'est le monde qui s'étend, plein de possibilités fantômes. J'ai 26 ans et je voudrais retourner dans le lit où j'ai vécu mes premiers rêves. Vous aimeriez retourner dans le lit de vos premiers rêves, Loukanche ? Ça vous manque, l'enfance ?
Mais il y a quelque chose qui est très beau dans l'enfance, et qu'elle soit difficile ou pas, mais qui est vraiment ce début et ces émotions fortes, ces premières émotions. Et c'est vrai que parfois, on est pris dans nos vies et tout à coup, dans le travail, dans un quotidien, et en fait, on a perdu cette chose-là, ouais. Qui est le toucher.
Ouais. Bon, merci beaucoup Loukanche, merci d'être venu dans la librairie francophone depuis Bruxelles. Rien que le soleil est paru aux éditions Grasset. Bon week-end à Bruxelles, Lou.
Merci, à bientôt, au revoir.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Allez, les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. Deuxième partie pour terminer, on reste en Belgique avec Nathalie Clairin et un coup de gueule outré.
Oui, tout à fait. En fait, ici, c'est pour une bande dessinée pour les très jeunes, je trouve, quand même, oui, 10 ans. Le premier tome qui commence la série est intitulé « Absolument normal » aux éditions Dupuis. Il s'agit de l'histoire du petit Como, un garçon ordinaire dans un monde au super pouvoir. Jusque-là, tout va bien. Mais si le thème de la différence a raison d'être abordé, moi, je ne souscris pas du tout à la banalisation d'images que j'ai trouvées tout à fait choc.
Ah bon ?
Un petit garçon qui est régulièrement maltraité par des créatures adultes monstrueuses, c'est quand même pour les 10 ans,
ouais.
Qui vomit des larves et j'en passe. Alors, je vous laisse juge, mais moi, ça n'est pas passé.
Bon, il voit pire à la télé en ce moment, hein, mais bon, sur les plateformes.
Justement.
Je ne citerai pas de nom, mais il y a des plateformes, il y a des trucs horribles. Hein. Je me dis comment c'est possible. Bon, d'accord, on ne lira pas donc cette bande dessinée absolument normale, c'est le titre en même temps, voilà. Merci Nathalie. Un coup de cœur au Canada, Mike Vienno.
Oui, moi je vous parle du recueil de poèmes radial de Valérie Forgue au Lézard amoureux. C'est une écriture vive avec des mots jetés qui transpercent le recueil. C'est radial comme les sentiments qui partent du cœur jusqu'au contour certain des amours. Un beau champ sémantique qui parle de la radiale, justement, trajet, flèche, visée, ligne, scindée en deux. C'est une écriture lumineuse, une écriture forte. J'ai vraiment apprécié cette lecture.
Parfait. Valérie Forgue, radiale aux éditions Le Lézard amoureux. Merci, Mike. Avant de conclure, on écoute le son de l'Outre-mer avec Max Mona, originaire de la Martinique. Voici un extrait d'Antidote. Max Mona, fils d'Eugène Mona, le grand artiste flûtiste martiniquais. Max prend donc la relève. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Alexandre Chenet et Selim Guéribi. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, nous serons donc à Montréal au Salon du Livre pour une grande séquence exceptionnelle au cœur de l'événement. On va vous faire vivre le Salon du Livre sur place. Bon week-end, bonne semaine à tous. À bientôt, salut.